Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy.
Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Point d'orgue, votre rendez-vous de musique sacrée. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro. Et aujourd'hui, nous allons continuer le chemin que nous avions débuté la semaine passée, à savoir le croisement entre les musiques sacrées et les musiques de films. Pourquoi est-ce que je fais ce choix? Tout simplement parce que je pense, comme certains cinéastes d'ailleurs, eh bien que la musique sacrée a son mot à dire dans d'autres arts et que la prégnance de cette musique, sa puissance ainsi que le message qu'elle peut faire passer, parfois peut transcender les images. Et je trouve que c'est pour ça qu'il y a un véritable sens à parler des choix qu'ont fait certains cinéastes. D'ailleurs, on peut transposer ça dans une certaine mesure à la liturgie. Il est vrai que parfois on pourrait se contenter de certains textes, mais la musique vient transcender tout cela, et c'est cela que je voulais mettre en évidence aujourd'hui entre des choix cinématographiques et des choix musicaux. Alors sans plus attendre, nous allons passer au premier film que je vous propose aujourd'hui. Il s'agit de The Tree of Life, l'arbre de vie de Terrence Malick, très très grand film et qui a obtenu la Palme d'Or au Festival de Cannes, qui exprime une vie familiale assez simple entre des parents et des enfants, et le regard d'un enfant qui est adulte au début du film et qui regarde sa vie passée. Et en fait, Terrence Malick, comme assez souvent d'ailleurs dans ses films, propose une véritable remontée dans l'histoire de l'humanité pour pouvoir expliquer certaines choses de la vie actuelle. Il y a évidemment quelque chose d'assez messianique, et naturellement, bien entendu, Terrence Malick va utiliser beaucoup de musique, et notamment de la musique sacrée. Et moi, je voulais m'arrêter sur un de ces morceaux qui est assez particulier. Il s'agit du Lacrimosa, du Requiem for My Friend, du compositeur Preissner, qui est sorti en 1998. C'est une messe qui est absolument extraordinaire parce qu'elle suit un projet amical à la base. En fait, elle est dédiée au réalisateur Krzysztof Kieślowski, avec lequel Preissner a travaillé. Et en fait, il y avait tout simplement une envie de faire une ode à la vie. Donc c'est un morceau qui s'appelait Life, avec un orchestre et des chants en grec, en latin, en polonais, qui était une célébration de la vie. Et en fait, la mort de l'ami de Preissner a conduit à modifier ce projet, et il a décidé d'en faire une hymne à son ami disparu, et donc il a écrit un requiem qui suit parfaitement la trame du requiem normal catholique, avec un introït, un kyrie, un dies irae, un offertoire, un sanctus, agnus, lux aeterna, le lacrimosa qui nous intéresse, et puis une sortie. Il faut savoir que les langues également ont été mises à l'honneur. Il a choisi, le compositeur Preissner, de mettre en avant le latin. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de tout à fait liturgique, à l'exception notable d'un morceau qui est en polonais, c'est le Lux Aeterna. Peut-être pour cette espèce de proximité avec le défunt, pour l'inviter à aller vers le ciel. Mais le reste a été choisi en latin. Et il est également à noter que la première de ce morceau a été fait dans une église. L'enregistrement a été fait dans une église. Il utilise pour cela des chœurs, des solistes et l'orgue. Donc tous les événements, tous les éléments, toutes les concordances se font pour avoir un véritable morceau liturgique ici réutilisé dans le film. Et pourquoi est-ce que le compositeur Terrence Malick, alors je vais peut-être pas parler en son nom, mais si vous voyez ce film, vous allez voir qu'il y a une immense part donnée à un aspect contemplatif. Il utilise notamment des scènes préhistoriques, il utilise des scènes de vitraux, et en fait il y a beaucoup de transitions dans son film qui sont presque des temps morts de réflexion, de méditation qui se font autour de l'humanité et bien entendu d'une forte part de l'au-delà. Et c'est pour ça, à mon avis, que le choix s'est arrêté sur ce Lacrimosa, qui là aussi est assez extraordinaire. Sur la composition même, vous allez entendre, donc il s'agit d'une composition là où vous allez entendre toutes les composantes que j'ai dit, à savoir une soliste, une chanteuse, un orchestre, qui est ici personnifié par l'orgue, qui va avoir cette espèce d'aspect cathédralesque, et un chœur qui là aussi se déploie de manière assez extraordinaire. C'est là où il y a le génie de ce compositeur, c'est de commencer avec une forme de grande gravité. Après tout, c'est le Lacrimosa, donc il y a un aspect qui est très triste, naturellement. Il y a l'écho de la mort du Christ qui se fait derrière, en plus de la mort du défunt. Et peu à peu, la musique va se déployer de manière totalement extraordinaire et va terminer avec un accord majeur absolument splendide qui laisse transparaître une forme d'espérance. Il y a donc là aussi une véritable adéquation, non seulement entre la musique qui a à elle seule une véritable richesse, et la musique qui transparaît à l'écran. Pour vous faire une idée, bien sûr, je vous invite à voir vous-même le film et à vous faire votre propre idée. Voici le Lacrimosa de Preisner. Magnifique morceau Lacrimosa du Requiem de Preisner, quelque chose d'assez extraordinaire dans son expressivité, tant le côté de la mère qui a perdu son enfant est d'une grande prégnance. Vous avez vu ce morceau qui débute de manière totalement intime dans des sanglots qui sont ceux de la douleur du cœur et peu à peu ce cri qui devient de plus en plus fort comme cette injustice jetée à la face du ciel qui fait face à la douleur de la mère qui a perdu son fils bien-aimé. C'est, je trouve, quelque chose d'assez extraordinaire et c'est d'autant plus fort que dans le film de Terrence Malick, il y a évidemment une relation très particulière entre la mère et leurs enfants, et c'est pour ça que je vous invite vraiment à découvrir ce film en ayant cette petite clé de lecture-là qui est, je trouve, un très très bel hommage à la musique de Preisner qui a écrit ça, ne l'oubliez pas, en hommage à son ami disparu. Voilà pour ce premier extrait musical que je voulais vous offrir, et maintenant on va changer complètement d'ambiance et d'intention musicale avec une œuvre majeure dans l'histoire du cinéma. Il s'agit du film Fantasia de Walt Disney, une œuvre absolument extraordinaire qui date des années 40, enfin d'ailleurs de l'année même 40. Une œuvre absolument magistrale qui a beaucoup compté dans le développement de la firme Walt Disney, même si elle n'a pas eu de succès, évidemment, elle a été diffusée en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, donc ça a été très compliqué. Et justement, quand on parle d'histoire et de contexte, eh bien, toute cette œuvre de Fantasia revêt une importance particulière. Vous allez le comprendre très très vite. Alors il s'agit d'une œuvre, si vous ne la connaissez pas, que je vous invite à courir à aller voir, c'est une œuvre assez extraordinaire. C'est un film presque expérience qui met sur le même plan la musique ainsi que l'animation, car le film ne comporte strictement aucun dialogue. Il y a quand même un conteur qui raconte certaines choses, mais le but du jeu, c'était vraiment de mettre en musique des événements musicaux qui sont assez extraordinaires. Donc vous avez des choses tout aussi diverses et variées que la toccata et fugue en ré mineur de Jean-Sébastien Bach, le ballet Casse-Noisette de Tchaïkovski, l'apprenti sorcier de Ducasse. Enfin, il y a beaucoup de morceaux de la musique classique qui sont extrêmement connus. Et en fait, ces morceaux se développent sous forme de tableaux. Et le dernier tableau, il s'agit tout simplement de deux parties qui s'enchaînent. Une première se fait sur la musique de Modeste Moussorgski, Une nuit sur le Mont Chauve. Et là, en fait, il y a une sorte de sabbat démoniaque qui se fait sur une montagne et qui s'enchaîne avec un deuxième tableau sur, et c'est là le morceau qui nous intéresse, l'Ave Maria de Franz Schubert. Et c'est là où je voulais en venir, parce que ce morceau que vous connaissez très certainement, qui est un très très grand morceau, alors je vais vous passer le morceau tel qu'il est réarrangé dans le film, donc c'est assez différent de ce que vous avez l'habitude d'entendre avec la soliste et le piano, mais vous allez voir, l'œuvre ne se cache pas. Et il y a dans cette volonté de Walt Disney de mettre en avant l'aspect totalement sacré. Déjà parce qu'effectivement, ça succède à un tableau qui est assez démoniaque, comme si l'Ave Maria de Schubert, par sa douceur, voulait atténuer l'horreur précédente. Et également d'un point de vue historique, effectivement, puisque ces tableaux prennent place dans la Seconde Guerre mondiale, il y a évidemment quelque chose qui est de l'ordre de la guérison et de l'apaisement. Et ça se voit d'ailleurs dans l'animation qui est d'une immense simplicité. Cet Ave Maria de Schubert s'ouvre dans le film par une procession au flambeau qui se fait de façon très lointaine. On dirait presque des lucioles dans la nuit, comme si l'espoir n'était pas perdu. Et finalement, l'écran est séparé par un rayon de lumière qui peu à peu va s'élargir et nous laisser place à une sorte de cathédrale de forêt avec des arbres qui s'élancent comme des piliers vers le ciel et qui nous donnent accès à une forme de lumière, comme s'il y avait effectivement au bout de cette nuit quelque chose de totalement céleste. Je vous invite donc à découvrir la lecture de l'Ave Maria de Franz Schubert dans le film Fantasia de Walt Disney. Et c'est ainsi que se termine le film Fantasia sur cette musique magnifique de Franz Schubert, ici revisitée à la sauce Disney mais qui ne perd rien de son charme. Et là aussi, je vous invite à découvrir les images parce que je peux vous dire que c'est assez poignant, notamment dans le contexte dans lequel ce film a pris place, également dans le contexte du film lui-même, de tous ces tableaux qui se succèdent. Une merveille d'animation que je vous invite à découvrir ou à redécouvrir naturellement. Enfin, je voulais me diriger vers l'un de mes compositeurs de musique sacrée préférée, Arvo Pärt, qui a composé nombre de musiques qui ont bien entendu été beaucoup utilisé dans le cinéma, ne serait-ce que l'écriture d'Arvo Pärt avec son style tintinnabuli, évidemment fait presque naturellement penser à de la musique de film, et nombre de ses œuvres finalement, sacrées ou non, ont été reprises dans des films. Alors je n'avais que l'embarras du choix, et mon choix s'est arrêté sur un de ses morceaux qui a d'ailleurs été utilisé dans plusieurs films, Da Pacem Domine, qui est un morceau qui date de 2024, qui est une hymne à la paix accordée au Seigneur, tout simplement parce que il s'agit d'une composition qui a été faite après les attentats de Barcelone. Et donc là, il y a naturellement quelque chose d'assez orienté sur le côté sacré, le côté paix, le côté unité, qui fait sens. Et de nombreux cinéastes ont voulu mettre en avant cette musique-là, notamment The Tree of Life, donc j'en ai parlé en tout début de cette émission, qui a utilisé ce morceau-là. Je pense également au film de Xavier Beauvois, Des Hommes et des Dieux, qui là aussi, le massacre des moines de Tibérine peut se prêter effectivement à cet aspect d'attentat, cet aspect de mort, etc. Et d'avoir évidemment une volonté de faire paix, qui est ici apportée par la musique. Vous allez l'entendre, la musique d'Arvo Pärt, comme d'habitude, et d'une grande sérénité, d'un grand calme, et en même temps, il y a cet aspect totalement céleste qui est évoqué par cet aspect tintinnabulé. Je vous rappelle que c'est un style qu'il a lui-même inventé, ce compositeur, où en gros, les sonorités viennent s'entrechoquer les unes avec les autres, par le biais de dissonances et de résolutions qui parfois tardent à venir, mais qui donnent un aspect totalement magique et une patte totalement reconnaissable de ce compositeur-là, qui signe donc ici l'une de ses grandes pages, même si c'est un morceau qui est relativement court. Vous allez entendre, c'est un petit chef-d'œuvre utilisé là aussi dans de nombreux films. Voici donc le Da Pacem Domine d'Arvo Pärt. Thank you. Et c'est ainsi que se conclut cette magnifique œuvre d'Arvo Pärt, Da Pacem Domine, utilisée dans de nombreux films. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié ce tour de musique sacrée que l'on peut retrouver dans les films. Naturellement, d'autres choix pouvaient s'offrir à moi. L'offre est pléthorique, si j'ose dire. Mais voilà, je voulais vous offrir ce petit tour pour vous montrer que là aussi, la musique sacrée pouvait transcender les autres arts. On se retrouve, quant à nous, la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Point d'Orgue. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt.